Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Jean-Louis, au micro de Radio Libre en Périgord, pour cette chronique du groupe Fred Zeller, donc du lundi 22 avril. Un peuple aux mains nues, le peuple palestinien, est en train de se faire massacrer. Une armée le tient en otage. Pourquoi ? Quelle cause défend ce peuple et que lui oppose-t-on ? J'affirme que cette cause est juste et sera reconnue comme telle dans l'histoire. Aujourd'hui, règne un silence complice en France, pays des droits de l'homme, et dans tout un Occident américanisé. Je ne veux pas me taire, je ne veux pas me résigner. Malgré le désert estival, je veux crier fort pour ces voix qui se sont tues et celles qu'on ne veut pas entendre. L'histoire jugera, mais n'effacera pas le saccage. Saccage des vies, saccage d'un peuple, saccage des innocents. Le monde n'a-t-il pas espéré que la Shoah marquerait la fin définitive de la barbarie ? Ces paroles sont celles de Gisèle Halimi, le 28 juillet 2014. Quel sort lui serait-il réservé aujourd'hui si elle prononçait ces mêmes paroles ? Quelles paroles prononcerait-elle ? Parce que rien, il n'y a pas un mot à changer dans cette déclaration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ce crime permanent contre le peuple palestinien, ce crime de guerre qui se poursuit jour après jour, bombardements incessants sur la population civile, propos génocidaires des ministres du gouvernement de Netanyahou, dont certains affirment qu'il faut tuer toutes les femmes, dont certains affirment qu'il y a 2 millions de nazis à Gaza. Mais on l'a pas bien vu, c'est les Gazaouis qui sont en train de massacrer le peuple juif, de massacrer Israël et de bombarder les villes d'Israël. Regardons les images. Il me semble que c'est l'inverse. Alors, il faut maintenant dire les choses. Ça fait plusieurs semaines que nous le disons. Ce qui se passe à Gaza se relève d'un génocide, d'une volonté génocidaire, assumée comme on le voit dans les propos de nombre de ministres du gouvernement Netanyahou. Alors, que peuvent bien signifier des paroles demandant un cessez-le-feu, etc., si dans le même temps on continue à livrer des armes ? La moindre arme livrée à Israël, au gouvernement de Netanyahou, sert directement contre le peuple palestinien. Ça suffit maintenant. Il faut arrêter. Ça fait des dizaines de milliers de morts qui sont la conséquence de cette attaque permanente, de ce crime perpétré contre le peuple palestinien. Et que voit-on aujourd'hui en France ? Eh bien, on voit qu'il y a des propos qui nous écœurent. Parce qu'il y a d'un côté, oui, il faut un cessez-le-feu, et puis de l'autre côté, ben effectivement, les armes qui continuent d'être livrées. Et lorsque la jeunesse en particulier se mobilise pour exiger le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements, l'arrêt des livraisons d'armes, eh bien, ce sont les mesures liberticides qui tombent. Pas moins de 5 dans ces dernières semaines. Des interdictions de conférences, interdictions de rassemblements. Alors, par exemple, à Lille, écœurement des étudiants après l'interdiction d'une conférence de LFI. Le choc des étudiants lillois après l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan sur la Palestine a été décuplé par l'interdiction consécutive de la préfecture. Beaucoup dénoncent un climat répressif sur les soutiens à Gaza qui n'épargne pas les universités. 4 étudiants en sciences politiques âgés de 19 ans ont une discussion animée le 18 avril en milieu d'après-midi dans le quartier de Moulins à Lille. Le noyau dur de l'association Libre Palestine, qui a organisé une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, annulée par l'Université de Lille, est sous pression, raison pour laquelle ses membres préfèrent garder l'anonymat. En meeting à Roubaix, la veille, Jean-Luc Mélenchon avait décrit le président de l'association prostré à l'idée qu'on ait pu le prendre pour quelqu'un d'autre que la personne qu'il est. Le jeune homme a la mine grave, dont le donne le change, mais il jette des regards inquiets autour de lui. Depuis plusieurs jours, une polémique alimentée par des élus macronistes, les Républicains et du Rassemblement national a enflé, accusant Libre Palestine de propager l'antisémitisme. Les quatre amis ont passé des heures devant CNews, qui s'est repaît de l'affaire avec son outrance habituelle, et sur le réseau social X, où le syndicat étudiant d'extrême droite uni a revendiqué une victoire une fois l'annulation obtenue. L'ampleur que ça a pris nous a totalement dépassés. On ne compte plus les propos diffamatoires tenus à notre propos, disent-ils à l'unisson, rejetant formellement l'accusation qui leur est faite de nier l'État d'Israël ou du fait de leur logo, une carte de la région israélo-palestinienne similaire à celle de l'Union des étudiants juifs de France, UEJF, argue les insoumis. Autour d'eux, rue d'Arras, des policiers au brassard orange vont et viennent en les ignorant pendant que leurs collègues scotchent un arrêté de la préfecture du Nord sur les portes de l'Impérial, la salle voisine de la permanence du député de la France insoumise, Adrien Quatennens, qui devait accueillir la conférence après son annulation. L'information est tombée quelques instants plus tôt. Le préfet du Nord interdit par cet arrêté la conférence déjà déplacée. Il invoque, citation, « des risques de troubles à l'ordre public en raison des appels à la mobilisation lancés par plusieurs organisations pouvant entraîner des rassemblements, des attroupements et des heurts sur la voie publique dans un climat de tension géopolitique accrue ». Alors que LFI avait tenté de garder le lieu secret, la fachosphère s'est emparée du lien d'inscription à l'événement et des anonymes se sont enregistrés en masse en écrivant des insultes à la place de leur nom. Pas de quoi effrayer les insoumis, à la maison, dans le quartier ouvrier de l'Île-Moulin. Mais le préfet a tranché. Les quatre militants associatifs dépités iront donc au rassemblement auquel LFI appelle désormais en fin de journée sur la place Honecker, tout près d'ici, mais ils s'y feront discrets. Demain en impartiel, on veut pas finir en garde à vue, sourit-il tristement. Devant la permanence parlementaire d'Adrien Quatennens, les militants LFI courbent les chines, mais ils sont eux aussi sous le choc. Depuis hier, ils tombent de Karim en Silla et ne savent plus à quoi se raccrocher pour avoir l'assurance qu'une simple conférence sur la Palestine ait bien lieu. Emma Fourreau, co-responsable des Jeunes Insoumis et candidate sur la liste conduite par Manon Aubry, a déjà vécu l'annulation d'une conférence à laquelle elle devait participer avec Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Rennes la semaine précédente. La préfecture d'Ille-et-Vilaine l'avait annulée à cause d'une alerte attentat qui laisse la militante sceptique. Au total, les Insoumis dénoncent 5 annulations de conférences, un effet concret des accusations dont ils doivent se défendre en permanence depuis le 7 octobre. La répétition du même scénario est aux yeux d'Emma Fourreau le symptôme d'une, citation, « dérive liberticide ». Et elle poursuit, « la possibilité même de pouvoir s'exprimer librement en tant que force politique d'opposition est attaquée. Il ne faut pas laisser ce précédent s'installer. Ce serait délétère pour toutes les forces qui ne seraient pas de la même obédience que Macron », déclare-t-elle. Elle dénonce aussi une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour étouffer la voix de LFI sur la Palestine. Et elle dit « Je ne crois pas une seule seconde que nos opposants nous croient antisémites. Il n'y a jamais eu le moindre propos antisémite de Jean-Luc Mélenchon ou de nos porte-paroles. Ce qui est en cause, c'est la parole qu'on porte sur la Palestine, l'impératif du cessez-le-feu et de la justice pour le peuple palestinien. » Fin de citation. Toute la journée. C'est au nom de cette cause et de la défense des libertés publiques que des étudiants, membres d'organisations syndicales et politiques, pas forcément bien alignés avec LFI, se sont évertués à faire connaître cette censure. À 15h, ils étaient une cinquantaine à donner de la voix au mégaphone devant le siège de l'Université de Lille, à l'appel de Solidaires étudiants, de l'Union étudiante, de la Fédération syndicaliste étudiante, de l'UNEF ou encore du nouveau parti anticapitaliste. L'interdiction de la préfecture du Nord les a un peu plus abasourdis. « Je ne m'y attendais pas », témoigne Arthur Podbosque, 19 ans étudiant à Lille 2 et militant aux Jeunes Insoumis. « Que la parole des opposants à un régime génocidaire soit interdite est une atteinte grave à la démocratie. Ça marque une rupture », dit-il. L'argument de la montée des tensions internationales est absurde. Ça fait 6 mois qu'il y a un massacre sans nom à Gaza, abonde Hugo, 22 ans, militant au NPA, en référence au communiqué du président de l'université. La fac, en interdisant cette conférence, cède à la censure et cautionne le discours qui assimile la défense de la Palestine à de l'antisémitisme. Tous les étudiants que nous avons interrogés rapportent un décalage entre la violence de ces accusations et le climat plutôt pacifique sur le campus lillois. Depuis le 7 octobre, 2 comités de soutien à la Palestine se sont constitués et tiennent régulièrement des tables derrière un grand drapeau palestinien. Léonore, responsable de la FSE Lille, rapporte que plusieurs événements liés au risque de génocide à Gaza n'ont causé ni troubles ni émoi, même si l'université veille à prévenir tout débordement, dont une conférence de la juriste franco-palestinienne Rima Hassan il y a un mois, le jour où sa candidature aux européennes était annoncée. Tout s'était très bien passé, malgré les insultes de l'UNI à son égard sur les réseaux sociaux, témoigne Noah Massi, militant aux Jeunes Insoumis, qui insiste sur la crainte permanente du doxing de l'extrême droite, la publication sur les réseaux sociaux des coordonnées personnelles de militants et militantes soutenant la Palestine en incitant au harcèlement. Alban, étudiante en master de théâtre et secrétaire fédérale de Solidaires étudiants, estime donc, comme beaucoup de ses camarades, que cette interdiction marque un nouveau cap franchi dans la répression au soutien de la Palestine, dans la lignée de la condamnation le même jour du secrétaire général de la CGT du Nord ou de l'enquête préliminaire qui vise les militants syndicaux de l'École des hautes études en sciences sociales pour « apologie du terrorisme ». Le climat répressif qui touche toute la France n'épargne pas les universités, abonde un jeune enseignant du département de sciences politiques qui préfère garder l'anonymat. L'université ne remplit plus sa vocation. Ce n'est plus ce lieu d'esprit critique. Il est bouffé par les logiques autoritaires, bureaucratiques, dominantes, regrette-t-il. Alors que les slogans fusent sous les vitres muettes du bureau de la présidence de l'université, « Palestine vivra, Palestine vaincra, de l'île à Gaza, résistance ». Christian Lamarche, militant à la Ligue des droits de l'homme, craint que, citation, « petit à petit, on s'accoutume à des réductions des libertés démocratiques suivant la théorie de la fenêtre d'Overton ». Le gouvernement déroule graduellement le tapis rouge à l'extrême droite. Si demain le RN arrive au pouvoir et interdit une conférence, il aura toute facilité à dire que ça s'est déjà produit sous Macron, prophétise-t-il sombrement. Même s'il n'a pas mal de choses à reprocher aux insoumis, il sera donc là le soir même, place von Honecker, sur la Palestine. C'est le seul parti politique important qui a défendu les Palestiniens depuis le premier jour. Pour ça, je leur suis reconnaissant, poursuit-il. C'est un moment dangereux, où la société peut basculer. Il faut que chacun d'entre nous mette de côté les divergences qu'il peut avoir. À 19h, en face de l'ancienne Bourse du Travail, dont le rez-de-chaussée a été transformé en supermarché, la place est noire de monde. LFI annoncera 1000 personnes, de manière notable. Alors qu'ils s'étaient éloignés, les drapeaux des jeunes communistes côtoient ceux de LFI, du NPA ou encore de l'Union communiste libertaire. Tout l'après-midi, des voix à gauche, au Parti socialiste, au Parti communiste français, chez les écologistes, se sont élevées pour protester contre le sort réservé aux insoumis. Accoudé à la rambarde qui protège la scène, improvisée en quelques heures, le sociologue Saïd Bouhamana, originaire de Roubaix, contemple avec satisfaction la foule grossir. Pour le fondateur du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, la séquence est si grave qu'elle oblige à la convergence. Et il dit « Pour préparer de futures élections, ce pouvoir illégitime cherche à invalider des forces politiques qui lui sont opposées pour se présenter comme la seule opinion respectable, quitte à inventer des accusations », analyse-t-il. C'est un moment très dangereux qui s'est déjà produit dans l'histoire où la société peut basculer. Il faut donc que chacun d'entre nous mette de côté des divergences qu'il peut avoir, car si pour l'instant ceux qui peuvent signifier un symbole sont attaqués, c'est le droit de penser tout entier qui est menacé. Fin de citation. L'événement n'a finalement plus rien d'une conférence, mais tout d'un sursaut politique. Entouré d'une dizaine de députés LFI, de Rima Hassan et de Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon fustige sur l'estrade le préfet du Nord. Ils ont fait tout ça pour qu'on surréagisse, pour qu'il y ait quelques scènes à nous reprocher. Mais dans le pays, des gens de toutes opinions disent que ça va trop loin, lance-t-il. Prenant la défense de Rima Hassan, seule personnalité mentionnée dans l'arrêté du préfet, l'ancien candidat à la présidentielle dénonce aussi l'absence de suite donnée aux plaintes des insoumis lorsqu'ils sont menacés. Pas un seul de ceux qui insultent Rima Hassan n'a été inquiété. Pas plus que ceux qui nous ont conduits à changer de numéro de téléphone parce qu'ils nous ont harcelés ou menacés de mort. Ce 18 avril, le coup porté à la première force politique de gauche du pays n'est, lui, pas resté sans réaction. Et donc là, c'était un article qui est passé, qui a été publié donc sur Mediapart. Et je vais poursuivre avec Mediapart, parce qu'il se trouve qu'en discutant en fin de semaine dernière avec donc des amis, j'en venais à évoquer finalement en France une forme de maccartisme en train de se développer. Et il se trouve que Edwy Plenel vient de publier sur Mediapart, bien évidemment, une contribution titrée « Contre la solidarité avec la Palestine, un maccartisme à la française ». Eh bien écoutez, je trouve que cette contribution est tout à fait passionnante et je la livre à votre réflexion. La solidarité avec la Palestine est devenue un délit. Vouloir l'exprimer par la parole, l'écrit ou la manifestation est passible de convocation policière, de condamnation pénale ou d'interdiction préalable. Tous les démocrates devraient s'en inquiéter. Donc, Eddy Plenel, 20 avril 2024 à 18h56. Des préfets au parquet en passant par les policiers, le gouvernement a donc fait passer la consigne. Afficher sa solidarité avec la Palestine est un délit potentiel. Tandis que ne sont aucunement inquiétés les excès des ultras de la cause israélienne, dont le député LR Meir Habib se fait le bruyant porte-parole. Le moindre soupçon d'ambiguïté vis-à-vis des actions du Hamas ou de la légitimité d'Israël sert de prétexte pour faire taire, intimider ou stigmatiser les voix militantes de la cause palestinienne, promptement accusées de terrorisme ou d'antisémitisme. Qu'on en juge. Un syndicaliste CGT a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un simple tract diffusé après les massacres du 7 octobre 2023. Dans une formulation malvenue qu'il reconnaîtra volontiers à la barre du tribunal, il entendait dénoncer cet engrenage fatal dans lequel la violence coloniale entraîne la violence terroriste. Avant le procès, de nombreuses personnalités syndicales et associatives s'étaient inquiétées de cette volonté d'assimiler toute contestation politique ou sociale à du terrorisme. Tandis que la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, alertait sur un contexte de répression inédit depuis l'après-guerre. En vain, le tribunal de Lille, ayant suivi à la lettre les réquisitions de la procureure de la République, pour avoir pareillement sur les réseaux sociaux inscrit l'attaque terroriste du Hamas dans la longue durée du conflit israélo-palestinien, plusieurs activistes, dont la militante antiraciste Shiam Azbag, sont convoqués par la police pour des auditions au motif d'une « apologie du terrorisme ». Parmi eux, la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, qui fait campagne aux élections européennes en 7e position sur la liste de la France insoumise. Sa convocation lui a été notifiée au lendemain de la double interdiction par le président d'université, puis par le préfet de région, du meeting pour la Palestine qu'elle devait tenir à Lille en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, dénonçant, citation, « un climat général tendant à faire taire les voix qui s'élèvent pour appeler à la protection des droits des Palestiniens et condamner les exactions commises par Israël dans la bande de Gaza ». Son avocat, maître Vincent Brengart, s'alarme d'un dévoiement de l'infraction d'apologie du terrorisme au profit d'une criminalisation évidente de la pensée. Le même jour, le tribunal administratif, statuant en référé, s'alarmait d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation en annulant la décision du préfet de police de Paris d'interdire la marche du 21 avril contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants, au prétexte qu'elle pouvait porter en son sein des slogans antisémites. Dans son jugement, le tribunal souligne au contraire que les organisateurs avaient prévu de, citation, « de contrôler les prises de parole au micro afin de faire obstacle à tout discours antisémite ». Ce ne sont là que les manifestations les plus visibles d'une suspicion générale qu'amplifient les médias de masse, radio et télévision, aux mains de propagandistes d'extrême droite, grâce à l'impunité audiovisuelle dont bénéficie le groupe Bolloré dans le camp présidentiel. Mais elle déborde bien au-delà jusqu'à être relayée par des figures politiques se réclamant de l'opposition de gauche socialiste, dont certaines n'hésitent d'ailleurs pas à l'exprimer sur ces mêmes chaînes, dévolues à la haine du musulman, de l'arabe et de l'immigré. La Palestine sert ici d'énième prétexte pour banaliser ces thématiques discriminantes en assumant l'importation en France d'un conflit de civilisation où Israël serait une bastille occidentale face au péril islamiste. Loin du bruit médiatique, il faut imaginer les conséquences muettes et silencieuses pour les concernés, pas forcément militants, encore moins radicaux, que tous ces mots et tous ces actes blessent au plus profond de leur être. Et Eddy Plenel poursuit donc dans cette contribution. Au point qu'ils se sentent désormais exclus de leur propre pays. Tellement grande est leur solitude en l'absence d'indignation massive et de solidarité étatique face aux stigmatisations qu'ils vivent. Bientôt en librairie sous l'intitulé « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », au seuil, une vaste enquête sociologique sur la diaspora française musulmane montre que des milliers de Français et Françaises ont déjà quitté le pays depuis la terrible année des attentats de 2015. Polémique récurrente sur les tenues des élèves musulmanes, sanctions administratives contre des lycées privés musulmans, intolérance vis-à-vis du jeûne du Ramadan dans le football. En s'en tenant au seul dernier mois, c'est peu dire que cette persécution est devenue banale, acceptée par la plupart des courants politiques. La diabolisation des engagements en faveur de la cause palestinienne s'y ajoute, moyen polémique de jeter, s'il en était encore besoin, un peu d'huile sur le feu. un feu qui se répand depuis si longtemps déjà dans une sinistre indifférence. Car les interdits qui, aujourd'hui, frappent l'expression de la solidarité avec la Palestine s'inscrivent dans la continuité de la décennie écoulée. Déjà, à l'été 2014, le pouvoir socialiste incarné par François Hollande et Manuel Valls s'était saisi de la précédente guerre d'Israël contre Gaza pour porter atteinte aux libertés fondamentales par des interdictions préalables de manifestation, mais aussi pour installer l'assimilation à une renaissance de l'antisémitisme, de toute critique du sionisme en tant que mouvement national juif ayant dénié ses droits au mouvement national palestinien. Depuis, il y eut des rengaines sur l'islamo-gauchisme, la chasse au wokisme universitaire, la théorisation d'un djihadisme d'atmosphère. En 2020, la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France marquait un saut dans la répression de l'auto-organisation des populations ciblées par ces campagnes. En 2021, un cran supplémentaire fut franchi avec le vote de la loi contre le séparatisme, dont on a rapidement compris, avec l'invention de l'écoterrorisme contre les activistes écologistes, qu'elle viserait toute dissidence. Aucun des accords politiques à propos du conflit israélo-palestinien ne saurait s'accommoder de cette dérive qui, en définitive, ruine non seulement la démocratie en violant ses libertés fondamentales, mais surtout abîme la France en humiliant la diversité de son peuple. La référence historique qui convient est le maccartisme états-unien du début des années 1950. Par ailleurs, homophobe et antisémite. Il instaura une ignominieuse chasse aux sorcières, visant tout ce qui pouvait être suspecté de la compromission avec le communisme. Oui, tout, idées, engagements, créations, œuvres, écrits, biographies, professions, relations, amitiés, fréquentations, etc., etc. Je vous rappelle, je fais une petite parenthèse, que nous avions fait une chronique sur cette question du maccartisme il y a déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Je pourrais la remettre en lien en publiant donc le compte-rendu de cette chronique d'aujourd'hui sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je reprends la contribution d'Eddie Plenel. En France, mais aussi en Allemagne, comme en témoigne la scandaleuse censure à Berlin de Yanis Varoufakis, un nouveau McCarthy s'installe, prenant en otage le drame vécu par les Palestiniens et Israéliens pour faire taire toute interrogation dérangeante sur le cours périlleux du monde, sur le respect universel de l'égalité des droits, sur la violence de toute colonisation, sur les exigences d'un droit international, sur le surgissement de barbarie au cœur des civilisations, sur les indifférences et les aveuglements qui mènent aux catastrophes. Le McCarthyisme fut surnommé « peur rouge », et c'est bien de peur qu'il s'agit, politique de la peur. Cette expression fut forgée dans le débat américain pour décrire la réaction des États-Unis après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Elle résume une réaction politique insufflée par une panique existentielle qui, loin de mettre fin à la menace et au péril qu'elle entendait juguler, ne fit qu'accroître les désordres qui les alimentent. Deux décennies plus tard, le terrorisme islamiste s'est démultiplié, la puissance iranienne s'est renforcée et le ressentiment anti-occidental s'est enraciné. Entre-temps, que de principes reniés et que d'humanité brisée. Du Patriot Act, loi d'exception, à Guantanamo, bagne illégal, en passant par le feu vert à la torture durant les interrogatoires, et surtout, par l'invasion guerrière de l'Irak sur la foi d'un mensonge médiatique, cet aveuglement nord-américain a violenté toutes les valeurs démocratiques au nom desquelles cette riposte se faisait. Le monde entier en paye aujourd'hui le tribut, gagné par une brutalisation sans frein dans les relations internationales, comme en politiques intérieures, qu'illustre aussi bien Vladimir Poutine que Donald Trump. Les voix minoritaires, dont la notable exception française portée par Dominique de Villepin, qui ont alerté sur cette course au désastre en appelant au secours le droit international et en défendant la Charte des Nations Unies, avaient donc raison, même si elles furent impuissantes à l'enrayer. Tout comme, de nos jours, ont raison les voix, au premier rang desquelles celle du secrétaire général de l'ONU, qui condamne la fuite en avant guerrière et potentiellement génocidaire, selon la Cour internationale de justice d'Israël dans sa riposte au massacre terroriste du 7 octobre 2023. Vivant l'attaque du Hamas à l'instar du 11 septembre comme une menace existentielle, l'appareil politico-militaire israélien réédite cette politique de la peur en infligeant au peuple palestinien une terrible punition collective qui, loin de garantir la future sécurité de la sécurité future, pardon, de l'État d'Israël, accroît sa fragilité géopolitique et son discrédit diplomatique. Que seul un veto solitaire des États-Unis ait empêché cette semaine la reconnaissance de l'État de Palestine comme membre de plein droit des Nations Unies résume cet engrenage fatal où la force aveugle se révèle l'aveu d'une faiblesse. Car c'est évidemment la non-résolution de la question palestinienne qui était à l'origine de cette situation éminemment périlleuse où se joue la paix du monde. Tant qu'il ne sera pas mis fin à l'injustice durable, ancienne, réitérée et répétée, faite au peuple palestinien, tant que ne sera pas reconnu par les dirigeants israéliens son droit à vivre dans un État souverain après qu'il eut subi en partie l'expulsion de 1948, puis la colonisation depuis 1967, aucun des deux peuples ne pourra vivre en sécurité pour lui-même, encore moins en sérénité avec l'autre. L'histoire ne s'est pas arrêtée le 7 octobre 2023, pas plus qu'elle ne s'est immobilisée le 11 septembre 2001. La politique de la peur voudrait nous enfermer dans un présent éternel, figé sur la date d'un massacre qui serait sans cause, sans histoire, sans contexte. Interdisant l'explication, la complexité et la sensibilité, elle est une sommation à ne plus penser librement et différemment, ce que résume l'exigence d'inconditionnalité qui signifie le renoncement à toute critique. Dès lors, dans sa diversité, la solidarité avec la Palestine, qui elle-même ne saurait être inconditionnelle et légitime, ne serait-ce que pour sauver ce principe démocratique de liberté de pensée et du droit à la critique. Ce n'est pas seulement affaire d'humanité face aux martyrs incommensurables de Gaza, mais une question de politique face aux périls autoritaires ici même en France. Par-delà leurs différences et leurs divergences, toutes les forces qui se revendiquent d'une démocratie vivante et pluraliste devraient donc, d'une même voix, unie et ferme, exiger que cette solidarité puisse s'exprimer librement. C'était donc une contribution d'Edwige Plenel, publiée sur Mediapart, et cette contribution me semble extrêmement importante, et je dois dire que je la partage en très, très, très grande partie. Ça correspond vraiment, effectivement, cette question d'un macartisme à la française. Je crois que l'expression peut être qu'on peut la réutiliser en tout état de cause. Moi, je la reprends à mon compte. Je pense que c'est effectivement une façon de décrire ce qui est en train de se passer dans le pays. Et rappelons-nous, effectivement, hein, c'est rappelé par Edwige Plenel, ce qui s'est passé pendant ces sombres années aux États-Unis, pendant lesquelles le macartisme a dévasté tous les aspects de la vie sociale, y compris la vie culturelle. Alors, nous arrivons à la fin de cette chronique. Je vous donne bien évidemment rendez-vous lundi prochain, mais je vous donne également tout de suite un rendez-vous qui sera un peu particulier. Donc dans 15 jours, ce sera le lundi 6 mai, si je ne me trompe pas. Et ce lundi 6 mai, nous aurons une interview, nous aurons une interview en direct et en visio depuis la région parisienne avec Jonathan Denis. Jonathan Denis, c'est le président de l'association de l'ADMD, donc de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, au moment où le projet de loi sur la fin de vie est en train de rentrer en discussion. J'entendais ce matin même à la radio que le texte ne serait peut-être pas voté avant 2 ans, voire plus. Ça donne l'impression qu'il s'est toujours reculé, toute année pour qui sera rajoutée pour éviter le vote de cette loi. Ça semble être quelque chose qui apparaît, effectivement. On se demande bien pourquoi. Les discussions ont lieu depuis des années et des années. Mais enfin, il y a un processus parlementaire. On va bien voir ce que ça va donner. Et donc nous poserons un certain nombre de questions à Jonathan Denis sur ce qu'il pense de cette proposition de loi, comment il pense intervenir en tant qu'ADMD dans le cours donc, du débat parlementaire. Et puis nous aborderons également l'aspect de droit de mourir dans la dignité, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et de la laïcité, puisque je rappelle que lors de ces récentes assemblées générales, l'ADMD a inclus la question de la laïcité dans ses statuts. Voilà. Donc rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fretzeler. À bientôt. Bonne semaine.
En forgeant un socle charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord. Et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.